Bonjour à toutes et à tous, c'est les chroniques financières sur CFM Rodez, une émission hebdomadaire présentée, proposée par Steve Bonneau. Salut Steve.
Salut David.
Tout va bien?
Très bien, et toi?
Bah écoute, gentiment, on attend toujours le printemps.
Ça oui, ça pour l'attendre, on l'attend.
Ah, ça oui, ça fait deux mois que je le dis, mais bon, il va finir par arriver. Ou alors ce sera direct l'été, il se démerde, hein, je m'en fous, mais...
Pourvu qu'il fasse chaud, voilà tout
bon,
ce qu'on demande.
La météo financière, tiens, un petit mot avant qu'on aborde notre sujet du jour. Elle est comment un peu couverte.
Ça, c'est stable, oui. Alors, disons qu'on a subi quelques coups de tabac ces derniers jours, ça s'est un peu stabilisé, en fait. On a eu une séance pas trop mauvaise hier aux États-Unis. Aujourd'hui, en Europe, ça se passe plutôt bien.
Ouais.
Donc, je suis pas super inquiet. C'est un peu normal aussi que les gens remettent en question parce que il y a eu quand même
c'est bien
très, très belle hôte.
Voilà.
Donc, quoi.
Bon, écoute, tant mieux. On suit tout ça, évidemment, de près. Grâce à toi, Steve, je le rappelle, conseiller en investissement à ICA Finance dans le centre-ville de Rodez.
Oui.
Et cette semaine, alors je sais pas, pourtant, c'est pas la météo déjà, je sais pas, Steve, t'as envie de prendre des risques.
Mais j'ai envie d'en parler surtout.
Le risque.
Voilà.
Osons.
Exactement. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
Ça, c'était pas Robespierre, mais un truc comme ça.
C'est Danton, je crois.
Danton, oui. Donc fais quand même gaffe, ça a mal fini pour lui. Hein.
C'est vrai.
Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Bah écoute, c'est tout simple. En réalité, on voit beaucoup de clients qui viennent, alors c'est surtout, c'est vrai, sur des contrats d'assurance vie, qui viennent nous dire, je comprends pas, ça fait 10 ans que j'ai ouvert le contrat, je gagne rien, ou je regarde, si tu veux, je comprends pas, il y a pas de rendement, en fait.
Je gagne pas assez.
Oui, exactement.
D'accord. Et par rapport à ce qu'on leur a annoncé, ou ce qu'on leur a annoncé, c'est bien ce qui se passe, mais ils se disent que finalement, c'est quand même pas terrible.
Mais en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi.
Ouais.
Pourquoi ils gagnent pas. Mais quand on regarde, en réalité, dans la structure des portefeuilles qui sont dans ces contrats, on s'aperçoit, en fait, qu'ils sont beaucoup, beaucoup trop défensifs. Si tu veux.
Bah après, alors, dans assurance vie, il y a quand même assurance.
Oui, mais c'est juste une enveloppe, ça.
C'est
une enveloppe fiscale et patrimoniale. À l'intérieur de cette enveloppe, c'est un produit d'épargne maintenant. On peut piocher dans des fonds qui peuvent être aussi agressifs qu'on veut, si tu veux. Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que pour chaque profil, il y a quand même une prise de risque adaptée. C'est pas parce qu'on est défensif qu'on doit pas prendre de risque du tout et aller, par exemple, 100% sur un fonds euro.
D'accord.
Tu vois, parce que pour moi, ça, c'est un vrai danger. Ça, c'est un risque en soi. Le risque que tu ne gagnes pas assez d'argent pour couvrir les frais de ton contrat.
Ah, faudra peut-être le présenter comme ça.
Mais c'est un risque.
Vous ne prenez pas le risque, mais en faisant ce que vous faites, vous prenez le risque de ne pas gagner de grand-chose, voire du tout.
Exactement. Mais c'est des choses en fait, qui ne sont pas suffisamment expliquées aux clients, je pense.
Tu crois?
Ouais.
Parce qu'il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'aversion au risque. Si tu demandes de but en blanc, est-ce que vous voulez risquer ceci ou cela à n'importe qui dans la rue, premier truc, enfin...
Bah, si tu le présentes comme ça,
effectivement,
c'est un côté répulsif.
Voilà.
Mais en réalité, en fait, le conseiller, et normalement, ça doit être aussi le cas dans toutes les agences bancaires ou peu importe qui te vend, si tu veux, le produit, on est quand même aujourd'hui en capacité d'affiner les profils psychologiques et d'investisseurs des clients. On a des outils pour le faire.
D'accord.
Tu vois, c'est plus vraiment ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire tu avais le questionnaire de base, coché là, c'est bon pour vous. Et on essayait en fait de déterminer ou de mettre le client dans des cases.
D'accord.
Tu vois, maintenant, on arrive quand même avec la finance comportementale, je crois que ça s'appelle comme ça, à affiner un petit peu notre évaluation du profil psychologique du client. Ça, c'est important.
Ah ouais. Mais alors, par exemple, admettons, tu proposes ces études, ces profils, analyse de profil à un client. Et il s'avère que cette analyse de profil te dit qu'elle pourrait prendre beaucoup plus de risques qu'elle n'en prend actuellement. Comment tu vas lui...
Ah ben, il faut dire, écoutez, voilà, en réalité, quand on analyse votre situation, vous pouvez vous permettre de prendre du risque. Okay. Il faut voir, est-ce que les objectifs du client in fine sont en accord avec cette prise de risque? Est-ce qu'il y a une raison sous-jacente pour laquelle il ne prend pas le risque maximum autorisé par son profil?
D'accord, voilà.
Parce que peut-être il n'a pas besoin, tout simplement, parce qu'il a des objectifs en fait beaucoup plus, contraints, qu'il n'y a pas énormément d'ambition au niveau des objectifs, ce qui est un objectif en soi.
Oui.
Mais c'est souvent le contraire qu'on a. C'est-à-dire des clients, en fait, qui ont des objectifs très ambitieux et qui refusent de prendre le risque qui va avec.
Ah oui, oui, donc là, ça colle pas.
Donc là, il faut vraiment comprendre pourquoi. Ouais. Alors que potentiellement, ils pourraient de par leur profil. Tu vois, c'est souvent le cas, en réalité, le plus fréquent. Et donc, il faut comprendre pourquoi. Et c'est là que tout l'intérêt de la relation de conseiller, en fait, prend son sens. Parce que c'est dans le dialogue. Il faut vraiment comprendre pourquoi et expliquer surtout ce qui risque de se passer si on ne fait pas le portefeuille qui convient.
Alors, cette prise de risque supplémentaire ou prise de risque...
Adaptée,
voilà, merci. Adaptée, elle correspondrait à quoi ? C'est-à-dire qu'on barre tout ce qui est assurance-vie ?
Alors, pas du tout. Encore une fois, l'assurance-vie, c'est juste l'enveloppe. Si tu veux, c'est ce que tu mets à l'intérieur qui est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui a des objectifs ambitieux, okay, et qui potentiellement a la capacité de prendre du risque, on va lui dire, bah écoutez, il faut que dans la structure de votre portefeuille, vous ayez beaucoup plus, par exemple, une allocation action, plus risquée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? En tout cas, pour les actions, c'est surtout un risque de marché, c'est-à-dire voilà, de volatilité. Donc... Mais ça, en soi, peu importe. Si tu veux, j'ai envie de te dire que voilà, à partir du moment où tu n'as pas besoin des fonds demain et que tu les as mis dans ton contrat d'assurance vie parce que tu as un objectif à 10-15 ans qui est 1, 2, 3, 4, tu dois prendre le risque qui va avec. Sinon, ça n'a pas de sens.
Ouais, mais alors par exemple, tu peux très bien te dire, tiens, là, je pars dans une optique hein, parce que ça me correspond, c'est adapté à moi, un peu plus risqué, donc un peu plus d'action, si je te comprends bien. Mais toi, tu peux rien garantir.
Ah non, moi je n'aurais absolument rien garanti.
Certes, je prends un risque supplémentaire, mais pour à la fin, si je tombe sur une mauvaise année de bourse ou quoi, au final...
C'est-à-dire que oui, mais là, le temps joue avec toi. C'est-à-dire que quand tu as un contrat d'assurance vie, 10-15 ans, tu as le temps, même si tu prends une mauvaise année boursière. Statistiquement, de toute façon, si tu tiens le coup, si tu restes investi, tu vas gagner. Tu vois,
et c'est, historiquement, le passé te donne raison.
Historiquement, le passé te donne raison. D'autant plus que lorsque tu prends ce genre en fait, de risque, entre guillemets, bon, on se doute bien aussi que de l'autre côté, tu as potentiellement une capacité d'épargne qui peut t'aider à encaisser ou à racheter ou à remettre au pot.
Ouais, mais bon, ça, tu vas pas dire ça. Enfin, si, tu peux le dire, mais bon, c'est pas le truc très engageant. De toute façon, vous avez de l'argent, vous allez le remettre.
Non, non, mais évidemment, il faut pas le présenter comme ça. Mais si tu veux, l'idée, elle est là. C'est que quand même, pour que tu acceptes de prendre ces volatilités de marché, c'est là la source de ton revenu principal. C'est risqué, certes, mais c'est aussi ce qui rapporte le plus sur le long terme. Et il faut aller chercher du rendement, ne serait-ce que, un, pour couvrir les frais du portefeuille, deux, pour préserver le pouvoir d'achat, parce que sur 15 ans, l'inflation, elle est là, hein, malgré tout.
3% plus 3%, au bout d'un pas longtemps, ça fait le double.
Et donc, il faut aller chercher du rendement. C'est très important. Très, très important.
Et le différentiel de rendement entre quelque chose de pas assez risqué selon un profil et quelque chose adapté et plus risqué, le ratio de rendement, il est de combien ?
Ah, bah, ça peut aller trois fois.
Ah, bah ouais, ah ouais, d'accord.
Ah, bah oui.
Ah, oui, c'est pas rien.
Ah non, c'est pas rien. Hein. Là, tu as des portefeuilles qui font entre 6 et 7%, alors qu'ils seraient restés en fonds euros, ils auraient fait du 2,5%.
Hein. D'accord, ah oui, fois 2, fois 3. Non, j'allais dire si c'est pour gagner des queues de cerises.
Ah bah non,
Enfin, c'est toujours ça de prix, mais bon. D'accord, oui, fois 2, fois 3, c'est pas pareil.
Non, c'est pas négligeable. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Et donc, imagine que tu fais ça sur 10-15 ans. Bon, après, évidemment, tu vas pas faire toujours. Mais là, si tu veux, ce qui va être très important, c'est la manière de structurer le portefeuille. Voilà, essayer de faire en sorte que ton portefeuille soit le plus résilient possible. On a des outils pour le faire, ça, pour travailler, sans aucune garantie, évidemment. Mais quand même, on essaie de mettre le maximum de chances de notre côté.
Et alors, c'est quoi l'intérêt pour toi, ou pour ICA Finance, ou pour n'importe qui, d'être dans cette position-là, d'être tenté, parce que ça correspond à un profil, de lui faire prendre plus de risques ? Parce que j'ai envie de te dire...
Parce que c'est notre métier. C'est-à-dire nous, on est, si tu veux, le rôle du conseiller, ça va être déjà de faire prendre conscience au client que s'il veut atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, il va falloir qu'il agisse sur la structure de son portefeuille. L'un ne va pas sans l'autre.
D'accord.
Donc, c'est vraiment de mettre les cartes sur table et dire, voilà, si vous voulez faire ça, voilà ce qu'il faut faire sur votre portefeuille. Et on pense que vous êtes en capacité de le faire pour les raisons suivantes. 1, 2, 3, 4. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, sachez, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est un risque en soi.
Ouais.
que vous, vous risquez en fait de louper vos objectifs.
Et alors comment tu le présentes ça? C'est quoi ton positionnement? Enfin, tu vois, c'est style euphorique, agressif. J'exagère, c'est pas les termes. Mais ouais, allez, allez, on va y aller. Tu vois, hein? Ou comment tu l'amènes ça?
Non, ben on amène simplement en déterminant bien les objectifs, en essayant de les quantifier au maximum. Ça, c'est important,
ouais.
Parce que une fois que tu quantifies la masse à atteindre et que tu la mets en rapport avec la masse de départ,
ouais,
tu peux calculer, oui, une sorte de taux de rendement, tu vois, et te dire, voilà, pour atteindre ce rendement-là, voilà la structure de portefeuille qu'il vous faut. Donc là, si tu veux, tu amènes la construction dans un tout.
Là, c'est parfait. Oui, tu as la fin, il reste.
Exactement.
Et après, chemin.
Okay. Exactement.
Okay.
Puis ensuite, d'expliquer que on n'est pas obligé de s'exposer aux mêmes facteurs de risque. Prendre du risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un risque de marché.
Ouais.
Ça veut dire potentiellement prendre un risque de liquidité. Par exemple, c'est-à-dire que tu vas investir dans un produit que tu ne pourras pas revendre facilement.
Ouais. Oui, d'accord.
Tu vois, et que tu t'engages là sur du 10-15 ans.
Par exemple, là, il y a quoi dans ce...
Les private equity, donc tout ce qui est non coté,
ouais,
par exemple. Ouais. Tu as aussi tout ce qui est immobilier à travers les SCPI. Hein. C'est un peu plus liquide, mais enfin, ce n'est pas ce qu'il y a de plus liquide non plus.
Uh-huh.
Et donc, c'est vraiment le panachage de ces risques-là qui est intéressant.
Private equity, pour préciser pour ceux qui, mais je me mets dedans, qui ne sont pas sûrs de tout bien comprendre, c'est quoi? C'est l'idée, donc, les entreprises non cotées qui ont besoin de financement et qui font appel à ces financements par leurs propres moyens et tu leur prêtes
exactement,
pour 10 ans ou 5 ans, le temps de leur emprunt, ils te remboursent comme...
Alors, tu as deux grandes avenues. Ouais. Soit tu vas à travers des fonds de private equity,
ouais,
tu vois, donc
ouais,
tu achètes des parts d'un fonds,
ouais,
le fonds va faire le due diligence de la compagnie, de la société, et va décider d'investir, de racheter des parts directement au capital de la société.
D'accord. Ouais.
Bon, voilà. Alors, comment ça marche en général? Pendant les 5 premières années, si tu veux, ils vont sélectionner en fait les boîtes à acheter. Hein, donc, ils vont acheter. Et ensuite, dans les 5 années suivantes, ils vont commencer à désinvestir le portefeuille, donc à les vendre à d'autres acheteurs et commencer à rembourser les fonds.
De l'argent.
Voilà, exactement.
D'accord.
Donc ça, c'est intéressant parce que historiquement, ça dépend les millésimes, comme on dit, c'est un peu comme le vin, mais c'est quelque chose qui rapporte plutôt pas mal.
Ouais. Ah ouais,
Après, il faut vraiment aller avec les gérants les plus performants.
Ouais, c'est important. Là, ça demande de la connaissance, de l'information, parce que entreprise non cotée, bon, ça veut pas dire forcément toute petite boîte, mais enfin, ça veut dire pas les plus grosses déjà.
C'est exactement.
Celles qui sont obligées de partager leur information au moins une partie.
C'est un milieu très particulier.
Ouais, ouais,
il faut vraiment aller avec, parce que... Pourquoi c'est un milieu particulier? Parce que dans ce genre de milieu-là, l'information et l'accès à l'information est important.
Ah oui, oui.
Voilà, donc, il faut vraiment savoir qui fait quoi, pourquoi, etc. Ah oui, oui. Le track
record. Et qui est en place.
Exactement.
Même les personnes et tout.
Donc, il faut des ressources, il faut un track record et voilà, il faut bien sélectionner ses gérants.
Ouais.
C'est important.
D'accord.
Après,
du coup, ça prend du temps.
Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche.
Ouais.
Hein, donc, voilà. Et deuxième manière en fait, d'investir dans des boîtes non cotées, c'est avec ce qu'on appelle le crowdfunding. C'est-à-dire que là, c'est pour des plus petites structures où là, tu vas financer directement des opérations ponctuelles.
Mais attends, est-ce qu'on parle de la même chose que moi ici sur CFM? Je reçois assez souvent... C'est la grande mode, les crowdfunding depuis quelques années. Des associations, moi c'est souvent des associations, qui font du financement participatif, comme on dit en français.
C'est ça, exactement.
Qui disent, voilà, vous allez sur ce site, vous mettez 15 euros ou 150 euros, vous avez un t-shirt, vous mettez 1000, vous avez en plus une roue de voiture.
Et oui, alors c'est la même idée si tu veux,
avec un t-shirt, ça ne marche pas.
Tu peux essayer, mais ça va être difficile.
C'est bien ça.
C'est exactement ça. Alors, pour te donner une idée, donc, nous, on travaille avec un partenaire. Donc, il nous propose, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, des investissements. Le dernier qui était intéressant, en fait, il levait des fonds pour s'associer avec un gros groupe financier pour acheter un hôtel particulier à Paris.
Oui,
tu vois,
l'euro.
Voilà. Pas très loin de la Tour Eiffel, en plus.
Donc, ça coûte beaucoup de sous.
Donc, refaire, en fait, le remettre un peu au goût du jour et le revendre par appartement en s'associant aussi avec une agence immobilière très cotée.
Ouais.
Très cotée, très connue, exactement.
Un peu haut de gamme, ouais, d'accord.
Voilà.
Ouais.
Et alors, l'intérêt de ce genre de financement et surtout de formule, c'est que tu peux être investi pour 1000 euros.
D'accord.
C'est pas des sommes extraordinaires.
Okay.
En revanche, t'es bloqué. Là, t'investis, tu ressors quand t'as vendu ton appartement, grosso modo.
D'accord.
Tu vois, c'est un autre type de risque.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de panacher les risques dans leur ensemble pour s'assurer d'avoir un rendement décent pour atteindre tes objectifs.
D'accord. Mais donc toi, tu veux dire, toi et ICA Finance, par exemple, les financements participatifs, là, comme moi j'en vois à longueur de journée un peu partout, tu regardes.
Et absolument.
Tu investis, d'accord.
Mais oui, parce qu'on est toujours à la recherche de sources de risques différentes. Nous, notre job, c'est de comme je te dis, de panacher ces sources de risques.
Ouais, mais alors toi, c'est pas ton argent. Tu vois, c'est l'argent des clients, tu dois faire gaffe. Moi, c'est financement participatif pour en côtoyer souvent des gens qui me parlent de choses comme ça. Il y a bien souvent, je vois des trucs, des choses séduisantes. Tu vois, je me dis, ah, c'est sympa comme idée. C'est, ah, tiens, ça serait bien, nanani, nanana. Mais je veux citer un exemple parce qu'on en parle dans les journaux là, il n'y a pas longtemps. Je crois que ça avait fonctionné comme ça. Il y a une ligne de transport ferroviaire de fret entre Lot et
qui est montée en... associative. Voilà. C'était une scope, je
voilà,
crois.
Voilà. Bon, là, tu vois, j'avais vu l'idée, c'était bien présenté, les gens étaient sérieux. Hein.
Oui, bien sûr.
Donc, il y a plein de gens qui ont investi 100 000 euros. Bon, bah, total, là, ça, ils ont fermé, là.
Ils ont fermé.
Ouais, ouais. Alors que, bon, tu te dis, merde, les trains, du fret, il y en a besoin, tout le monde en parle. Non.
Ah, mais c'était un très beau projet.
Bah oui, mais pas tant que ça, apparemment.
Mais c'est pas ça. Mais là, tu touches un peu à la nature du risque aussi. Il y a des choses qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas.
Parce que même pour 1 000 euros, par exemple, pour toi, bon, 1 000 euros, c'est de l'argent. Hein,
c'est RailCoop, que ça s'appelle.
RailCoop, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 1 000 euros, mais à toi, 1 000 euros, est-ce que ça vaut le coup de un truc, pas, je vais pas dire se faire chier. De travailler sur un truc pour 1 000 euros sur 10 ans.
Mais ça dépend en fait du patrimoine que tu... Globalement, nous, notre analyse, elle est globale au niveau du patrimoine du client.
Ah, du portefeuille entier.
Si on voit que la personne a, je sais pas moi, 500 000 euros de liquidité à investir, tu peux lui dire, bah, écoutez, voilà, 5% ou 10%, allez, hein, entre 5 et 10%, tu peux l'allouer à ça. Après, tu vas prendre des choses plus liquides. À plus ou moins long terme.
D'accord.
Tu vois, donc c'est vraiment la structure globale du portefeuille qui est importante.
Ok, d'accord. T'as d'autres exemples comme celui-là, tu vois, auxquels j'aurais vraiment pas pensé pour des professionnels
Les SCPI, hein, c'est sympa aussi. Mais de le faire aussi peut-être de manière démembrée. Ça, le démembrement de SCPI, c'est intéressant.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que par exemple, quand tu achètes une SCPI, t'achètes une partie du capital et t'achètes des flux.
Ouais.
Les loyers, les choses comme ça. Ouais. Et ben là, tu peux démembrer les deux. Tu peux n'acheter que les flux.
Ah bon ?
Ou que le capital.
D'accord. Ils sont inventifs dans la finance, quand même.
Écoute, c'est sûr. C'est mais par exemple, tu vois, là où c'est intéressant, quelqu'un qui se dit, bon, écoute, moi, si tu veux, je vais économiser pour ma retraite, j'ai pas besoin de flux pendant les 15 prochaines années, tu veux dire, écoutez, ce qu'on peut
flux,
faire...
De flux, tu veux dire que comme du dividende
de rendement,
tous les ans.
Exactement. Ouais, tu dis, vous n'achetez que du capital, donc tu vas... acheter ta part de SCPI avec une décote, puisque tu n'achètes qu'une partie, et dans 15 ans, en fait, tu reconstitues en fait, les flux et le capital automatiquement. Et quand tu es à la retraite, ton investissement que tu as fait 15 ans auparavant, ça va se transformer en investissement qui va te ramener des flux financiers.
Ah, d'accord. Est-ce que aussi cet appétit pour le risque adapté que tu peux proposer à des profils particuliers, il peut dépendre un peu du contexte. C'est-à-dire qu'il y a là, en ce moment, il y a des choses que tu ferais que tu proposerais pas, que tu n'aurais pas proposé il y a 2 ans ou vice-versa.
Alors, oui et non. Mmh. Oui, dans le sens où, par exemple, si on se dit, on a peut-être une incertitude sur le niveau des marchés.
Okay. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve que, après, ça continue. Ça fait 1 an que je dis que c'est cher, mais en même temps, ça a encore beaucoup monté. Mais à un moment donné, tu peux te dire acheter des actions, ça a bien rapporté, mais au futur, est-ce que ça rapportera? C'est un autre problème, vu où c'en est.
Oui, mais là où on va intervenir, c'est qu'on va dire, on va quand même allouer un budget action.
Quand même, ouais.
Voilà. Mais on va l'investir de manière un peu différente.
Nous, ce qu'on fait.
À la fois en proportion et à travers les fonds qu'on va sélectionner.
Ouais, d'accord.
C'est-à-dire, pour te donner un ordre d'idée, on va beaucoup plus utiliser des fonds à performance absolue, ce qu'on appelle en anglais des hedge funds, qui vont avoir la capacité de profiter des hausses de marché, mais des baisses également.
Oui, parce qu'ils jouent à la.
Ils se couvrent au moins, ils peuvent jouer à la baisse aussi. Et tu vas aussi avoir, sur certains secteurs, tu peux très bien accommoder ça avec des positions beaucoup plus ponctuelles et réduites.
Mm-hmm.
Tu vois, au secteur que nous, on aime bien, c'est-à-dire la robotique, la digitalisation, l'armée, la défense, la sécurité, etc.
Par exemple, en ce moment. Moi, j'aurais envie de te dire par rapport aux 6 grandes thématiques dans lesquelles ICA finance et puis tu conseilles d'investir de façon raisonnable. Mais bon, les grands domaines, il y a la robotique, la sécurité,
l'économie verte, l'économie bleue, le spatial.
Voilà, là, j'aurais envie de te dire, je suis très bien tes 6 chapitres là. Bon, par contre, sur le bleu et le vert, on va baisser un peu parce que ça paraît un peu bon à la mode. Par contre, sur les canons, on va y aller.
Ah oui. Oui. Bah, c'est-à-dire que là,
Qu'il y a deux ans, tu aurais peut-être fait l'inverse.
Alors, si tu veux, là où on est un petit peu différent chez ICA, c'est qu'on a vraiment une grille de lecture géopolitique et stratégique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va choisir nos investissements le plus possible en fonction de notre lecture des événements. Oui. Tu vois, je te donne un cas très précis. Pourquoi l'économie bleue tout ce qui est en termes géostratégiques, l'Indo-Pacifique, c'est une région d'avenir. Ouais. Donc là, on a quand même des thématiques qui sont propres aux océans. Mmh. Puisque c'est quand même un vaste...
C'est plus grand que le reste. Ouais.
Et donc, on réfléchit à comment exposer les clients, à quel pays on va exposer les clients donc, pour bénéficier en fait, de cet thème. Tu vois, la différence d'une analyse purement macroéconomique, comme la plupart de nos clients ont un horizon d'investissement entre 10 et 15 ans, qu'ils exploitent à travers un contrat d'assurance vie, là, ça permet de se positionner sur du très long terme. Sur des tendances structurantes, sous-jacentes, qui ne vont pas fluctuer au gré des marchés. Mmh, bien sûr. Tu vois ?
D'accord. Donc, osons, prenons des risques raisonnablement, mais prenons-en, c'est un peu...
Prenons des risques adaptés à notre profil.
Voilà, adaptés à chacun. Bon, à l'inverse, j'ai envie de te dire, dans quoi tu ne prendrais pas de risques en ce moment ? Là, tu dirais non, là, quand même, non.
Tout ce qui est crypto-monnaie.
Ah, toujours ?
Ouais, Bitcoin, ça, je... Voilà, ça c'est vraiment quelque chose à suivre, c'est intéressant, mais tant que, en tout cas moi personnellement, tant que je ne comprends pas vraiment l'écosystème qu'il y a derrière...
Ah ouais, puis je crois qu'il n'y a personne qui... Enfin, sinon j'exagère.
Mais bon, alors, ce matin, il y avait une annonce, alors c'est pas tout à fait lié aux cryptos, mais quand même, c'était intéressant. Il y a Goldman Sachs qui a donc dit lors d'une interview qu'ils arrêtaient leur conseil, qu'ils arrêtaient le robot advising.
Ah,
donc,
ouais.
Ils arrêtent, en fait. Alors ça, j'ai trouvé intéressant. Donc bon, j'ai malheureusement pas pu entendre exactement pourquoi ils arrêtaient. Mais Goldman Sachs, c'est pas n'importe qui.
Ah oui, c'est eux qui décident. Enfin, j'exagère, mais bon. Attends, le robot advising, c'est-à-dire quoi ?
C'est-à-dire que des trucs digitaux, que d'avoir du conseil sous forme digitale automatisée.
Ouais, automatisée. Voilà. Ouais, c'est ça, d'accord. Okay.
Qu'il faudrait voir exactement. Après, je vais voir s'il n'y a pas une, si tu veux, un communiqué de presse ou quelque chose qui puisse expliquer en fait les raisons pour lesquelles ils arrêtent.
C'est bizarre,
ce service.
À l'heure de l'intelligence artificielle, où tu te dis que ça serait mieux qu'aujourd'hui
mais
qu'hier.
Mais tu sais, ça, je pense que ça correspond un petit peu à ce qu'on disait. Tu sais, on avait débattu ou expliqué qu'il y avait eu ce concours, entre guillemets, entre des banquiers.
Oui.
Qui était arrivé en tête.
Et ChatGPT avait gagné, voilà.
Oui, mais ils avaient gagné avec une solution qui est juste pas possible en pratique. Tu vois, c'était la solution de ChatGPT, en fait, était tout simplement invendable en pratique.
Ah, invendable, ça veut pas dire pas possible. Parce que,
ah non, mais exemple, possible, bien sûr.
Là, j'ai vu un pareil sur des tests de ça avec tout, là. Et avec, je sais plus quel jeu, est-ce que c'est le jeu de Go, je me rappelle plus. Et dans un premier temps, jusqu'à il y a quelques temps, comme on apprenait à un ordinateur à jouer au jeu de Go, on lui mettait les règles du jeu dans le machin.
Oui.
Et après, en fonction de ces règles-là, il jouait, puis il apprenait à jouer en fonction de ces trucs. Là, ils ont fait un nouveau truc. Ils n'ont même pas donné les règles du jeu. Et ils ont mis deux joueurs à face, deux qui jouaient l'une contre l'autre. Et ils se sont rendus compte que ça leur proposait des solutions que les grands maîtres du jeu disaient, mais c'est pas possible, faut pas le faire. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. Et paf, ils gagnent quand même.
Ah oui, non, mais alors ça, c'est très intéressant. Effectivement, ils expliquaient ça parce que humainement, tu as tendance à penser un petit peu de la même manière.
Ouais, ouais, bah ouais.
Tu vois,
ouais.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on te dit l'expression penser à out of the box, comme disent les anglo-saxons. La machine n'a pas cette contrainte.
Ah ouais, bah là, non, apparemment, non.
Tu vois, en revanche, ce qui est intéressant dans tous ces jeux-là et qu'on ne retrouve pas dans l'univers de l'investissement, c'est que ces jeux-là, malgré tout, il y a des règles.
Oui, il y a des règles.
Et il y a des règles stables.
Et voilà, qui ne changent pas en cours de route.
Exactement.
Ouais, tout à fait.
Quand ton environnement est beaucoup plus chaotique et imprévisible, tu regardes la solution de ChatGPT, elle ne fait que suivre des dynamiques de court terme qui étaient très récentes. Oui. Mais la véritable solution qui a été proposée, elle est inapplicable.
D'accord.
Tu ne peux pas, en tant que conseiller.
Voilà, en tant que.
Tu ne peux pas.
C'est pas ton argent, tu fais pas juste pour voir, allez, on s'en fout. Non, tu peux pas le faire. Là, tu dis, non, je le fais pas.
Exactement.
D'accord.
Tu vois, donc, il y a cette partie qui est très intéressante aussi. Hein. C'est vrai que de trouver, en fait. Si moi, je raisonnais comme un conseiller, je dirais oui, peut-être mettre une toute petite partie en crypto, même si ça a très bien performé. En revanche. Je sais bien que ChatGPT n'a pas ces contraintes-là. Lui, peut-être, ce qu'il voit, c'est qu'il y a une performance passée qui est très bonne. Il se dit, ça va certainement continuer. Et il y a quand même un facteur chance, là.
Oui.
Ça aurait pu décrocher tout, oui, complètement, oui, tu vois. Oui. Mais le fait est que, bon, bah, en l'occurrence, il est statistiquement, je dirais plutôt mathématiquement, il est en tête. En revanche, dans le vrai monde, tu ne peux rien faire avec ça.
Ah ouais, d'accord. Et donc Goldman Sachs, mais ils ont dit qu'ils arrêtaient, mais pour remplacer par quelque chose de mieux.
Je sais pas. Ah, je vais essayer de voir s'il y a
ça m'intrigue. Ils
vont oui, c'est intriguant,
Ils vont parvenir à graver les trucs sur les rochers.
Ah, je sais pas. Écoute, j'en sais rien.
Écoute, après.
Non, mais tu sais, le conseil, ça reste une activité très humaine, oui, malgré tout. C'est vrai que c'est pratique, le robot advisor, t'es dans sur ton portable, tu peux avoir les conseils et tout. Mais il manque, je pense, l'élément fondamental. Il manque l'empathie. Il manque de se mettre vraiment à la place du client. Ça, c'est dur.
Ouais. L'humain, comme tu nous dis.
Il manque l'humain.
Mais oui, non, mais on se rend pas compte que vous avez un cœur dans la finance.
Mais on a un énorme cœur.
C'est peut-être ça le plus incroyable.
Mais oui.
Bon, bah, merci beaucoup, Steve.
Merci, David.
On se revoit la semaine prochaine.
Ouais.
Allez, bonne semaine.
Ciao.